Dans la première lecture, nous avons écouté un extrait du livre du prophète Sophonie, qui est un livre contrasté, un livre à la fois où il y a des paroles très dures contre Jérusalem et des paroles d'encouragement aussi par rapport à Jérusalem et évidemment vers qui s'adresse chacune de ces paroles. Pour comprendre un peu le contexte, faisons un peu d'histoire. Donc, le livre de Sophonie, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est le roi Josias qui monte sur le trône à l'âge de 8 ans après l'assassinat de son père. Donc c'est une période très troublée. Il y a le royaume d'Assyrie, voisin dont la capitale est Ninive, qui est le royaume puissant d'alors. Et donc il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'avec un enfant comme roi et puis le royaume d'Assyrie aussi puissant, est-ce qu'on ne va pas devenir les vassaux au fond du royaume d'Assyrie? Est-ce que ce n'est pas ça la politique la plus adéquate? Et c'est là qu'intervient le prophète Sophonie, parce qu'il a des paroles dures. Il dit, si vous faites ça, si vous devenez le vassal, vous Israël, des Assyriens, eh bien vous prenez leurs coutumes, vous prenez leur culture, vous prenez leur manière de manger, vous leur prenez leur manière de se vêtir, vous prenez leur religion, vous prenez leurs idoles, et finalement, vous niez ce qui fait votre spécificité, c'est-à-dire que vous êtes le peuple de l'Alliance. Et donc, parole très dure par rapport à ça, à ceux qui voient le côté plus politique, géopolitique, et donc encourager cette alliance avec la Syrie. Et puis, au contraire, parole d'encouragement pour les petits, les pauvres, c'est ce que vous cherchez, l'humilité, vous serez à l'abri. Les humbles du pays, les humbles, c'est-à-dire qu'on dit en hébreu « anawim », vous avez peut-être entendu parler cette phrase, ce mot-là, « anawim », ça veut dire en hébreu « les courbés », ceux qui font confiance au Seigneur. Eh bien, parole d'encouragement. Ceux qui disent « non, on ne va pas prendre les idoles des Assyriens, même si c'est la puissance régnante d'alors, même si Ninive est une grande capitale, non, on ne va pas prendre, on va rester fidèle à l'alliance du Seigneur. » Il y a donc une inversion de valeur, et on voit bien, cherchez le Seigneur, vous les humbles du pays, accomplissez sa loi, cherchez l'humilité. Et au fond, si on veut trouver un fil rouge dans les lectures de ce dimanche, c'est vraiment ça, l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, et non pas dans une manière de voir une alliance qui pourrait être favorable parce que le pays avec lequel on s'allie est puissant, donc une lecture géopolitique, on pourrait dire, d'une certaine manière, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, voilà ceux qui seront sauvés, voilà ceux qui seront, d'une certaine manière, soutenus. En revanche, les autres qui veulent prendre les coutumes du vainqueur, qui veulent prendre les idoles, etc., et donc nier cette spécificité d'Israël, eh bien, c'est la colère de Dieu qui s'abattra sur vous. Vous ne serez pas à l'abri au jour de la colère de Dieu, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait confiance à l'alliance envers le Seigneur. Et donc cette inversion de valeur, je trouve, on la trouve dans les lectures, on voit bien la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, voilà ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé, dans le monde, voilà ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. Là aussi, pour ces débuts de l'Église, on se serait dit, ben voilà, on va prendre les gens, les notables, on va prendre les gens puissants, les gens bien dotés économiquement, politiquement, qui ont... Et c'est tout l'inverse qui se passe à Corinthe, puisqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. C'est, il leur rappelle, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants parmi vous, hein, ni de haute naissance. Voilà l'inversion des valeurs. C'est comment Dieu fait pour accomplir son royaume, pour que son royaume advienne. Eh bien, il prend les plus petits, parce que de façon à ce que aucune chair ne puisse s'enorgueillir devant le Seigneur. Donc, je trouve que ça nous... C'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment une manière différente de voir la vie, le rapport au monde, et même, j'allais dire, dans nos propres vies, de choisir peut-être ce qui est le plus fragile en nous, hein, de ne pas le mettre de côté ou de ne pas le cacher sous prétexte de paraître quelqu'un de bien aux yeux des autres, et donc on vit sous le regard des autres, et donc on met en avant ce qui aurait de la valeur aux yeux du monde. Hein. Non, ben, c'est le Seigneur dit c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est cette sagesse qui vient de Dieu, c'est-à-dire cette manière de cette sagesse du royaume, elle consiste précisément, hein, à choisir ce qui est fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Voilà ce qui n'est pas... c'est contre-intuitif. Hein, c'est comme pour Sophonie. C'est contre-intuitif de ne pas faire alliance avec la Syrie, le royaume assyrien. C'est contre-intuitif de prendre des gens, des bras cassés. C'est un ramassis de bras cassés. Le début de l'Église, est-ce qu'il faut dire le début de l'Église ou est-ce que c'est encore d'actualité? Peut-être, certainement, c'est un ramassis de bras cassés, etc. Et c'est comme ça que le royaume advient. Et puis on voit bien cette inversion de valeur, là pour le coup, avec les béatitudes, on a quelque chose qui est un enseignement. Hein, quand Jésus gravit la montagne évidemment, tout de suite ça fait tilt dans vos esprits. Hein, montagne, c'est Moïse, hein, qui gravit la montagne et reçoit les tables de l'Alliance. Hein, donc, les disciples s'approchent de lui, et lui il s'assied et il enseigne. Il s'assit, c'est-à-dire quand la position assise, c'est deux choses. C'est dans la Bible, c'est la position de celui qui enseigne. Normalement, celui qui enseigne est assis. Mais c'est la position aussi de celui qui est disciple. Hein, donc le fait que Jésus ait ce détail-là n'est pas anodin. Hein, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Donc il regarde. Il a à la fois le maître, il enseigne les béatitudes que nous connaissons bien, et à la fois il regarde les personnes comme il se met à la suite de ses disciples, de ces pauvres, de ces personnes, voilà, toutes simples, toutes modestes, toutes sans grande culture, sans par rapport à ce que et il se met à leur écoute et il se met d'une certaine manière à leur suite. Il regarde à travers la personnalité de chacun, ce qu'il peut y avoir de beau malgré la fragilité. Et puis, on a toutes les béatitudes, dont la première résume l'ensemble des béatitudes, vous la connaissez bien, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, c'est la seule des béatitudes qui est au présent. Et donc, c'est-à-dire que cette pauvreté de cœur, c'est-à-dire cette manière de voir les choses d'une manière non pas humaine, mais d'une manière spirituelle, contemplative, pauvreté de cœur, c'est-à-dire savoir compter sur le Seigneur, eh bien, c'est ça qui fait que le royaume advient et il est déjà là. Alors, ça nous demande une conversion, très certainement, parce que ce n'est pas du tout intuitif pour chacun d'entre nous. Au contraire, on serait à se ranger auprès des plus forts, et si, je ne sais pas quoi, si on veut choisir une équipe... pour former un comité paroissial ou que sais-je, voilà, on va choisir des gens sur lesquels on peut compter, sur qui ont peut-être un carnet d'adresses fourni, qui sont solides, etc., etc., etc. Il en faut aussi, hein, il faut que les forts portent les faibles, mais c'est important aussi qu'il y ait des personnes fragiles quand on fait le choix, comme notre manière de discerner. Surtout quand on est du côté, j'allais dire, entre guillemets, des forts, entre guillemets, des gens bien constitués, bien construits, éduqués, cultivés, etc., etc., ben on a tendance à chercher quelqu'un qui nous ressemble. Et les lectures d'aujourd'hui nous disent non, n'allez pas dans ce sens-là. Parce que s'il n'y a que des personnes qui vous ressemblent, vous qui vous considérez comme forts, alors que vous avez aussi vos fragilités, et combien chacun de nous, on a nos fragilités. Si vous prenez ça comme seul critère, vous ne serez pas un signe. Vous ne serez pas un signe pour le monde. Parce que le monde agit comme ça. Il prend les plus forts, les plus puissants, les mieux armés, les plus riches, les mieux cultivés. C'est comme ça pour construire et puis avancer. Si vous voulez vraiment être en signe, eh bien qu'il y ait une sorte de variété qui est à la fois, oui, des personnes qui tiennent la route, parce qu'il en faut, mais n'hésitez pas à prendre des personnes qui sont parfois un peu châteaubranlant, je veux dire, on voit bien que ces personnes-là, elles ont une certaine fragilité, parfois on voudrait compter sur elles et on n'y arrive pas, etc. Mais te dire, parce que vous les intégrez, vous voyez la fragilité, mais parce que vous choisissez de les intégrer, comme fait Jésus, il intègre ces personnes-là, ces bras cassés, il les intègre et il se met même à les enseigner. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu avance. C'est parce qu'il a cette manière de faire. Donc je trouve que nous-mêmes, dans notre discernement, notre manière de discerner, je trouve que ça peut être intéressant de dire, tiens, quels sont nos critères? Est-ce que très vite, au fond, on ne se range pas du côté des critères du monde, qui est la manière la plus habituelle de voir, et quelle place on laisse à des personnes peut-être plus fragiles? Et puis, en nous, est-ce qu'on ne choisit que le bon côté de nos personnalités, le côté solide, etc.? Quelle place on a par rapport à nos fragilités, à les montrer, et vivre ces béatitudes, heureux, les pauvres de cœur, et vivre comme quelque chose qui a à voir avec le royaume. S'il n'y a pas beaucoup de gens puissants ni de haute naissance parmi vous, ben, en nous, il n'y a pas que des choses bien, il n'y a pas que des choses desquelles on pourrait être fier. Non, il y a aussi de la fragilité, il y a aussi de la vulnérabilité. Comment est-ce que je suis assez simple pour m'en ouvrir, par exemple? Est-ce que je suis assez simple pour dire ces vulnérabilités aux autres, là où je ne suis pas le top, au top de... Voilà, et parfois, les gens se rendent bien compte. Hein, je vois bien dans ma réalité de communauté religieuse, ben voilà, on voit bien nos fragilités de caractère, nos fragilités de santé, nos fragilités parfois aussi intellectuelles, etc. Bon, donc, et puis aussi, on voit la beauté de gens qui sont tout simples et qui touchent énormément à travers leur simplicité. Alors, on va demander au Seigneur, avec ces lectures, d'avoir un discernement à la manière du royaume, de demander de cette grâce particulière d'être attentif à ce que le monde rejetterait ou ce qui en nous serait rejeté par le monde, hein, ou dans nos relations, hein, aussi on voudrait mettre ça de côté parce que voilà, c'est pas une personne intéressante, et c'est peut-être vrai, il y a des personnes, voilà, on va prendre la personne cultivée, etc. Bon, est-ce que c'est ça les béatitudes? Est-ce que c'est ça être témoin? Est-ce que c'est ça être témoin du royaume? Donc, je trouve que c'est beau et exigeant. C'est ça l'exigence. La véritable exigence, elle est là. C'est choisir la fragilité, la vulnérabilité, alors que tout le monde, au contraire, voudrait s'appuyer sur ce qui est fort, sur ce qui est puissant, etc. Alors donc, il faut demander au Seigneur cette grâce d'être des anawim, hein, des courbés, de cultiver l'humilité. Et dans, vous entendez dans humilité, vous entendez humus. Humus, ça veut dire terre. Terre, c'est la terre du centuple. Vous vous rappelez, le semeur est sorti pour semer, et puis il y a du grain qui est tombé là, soit dans les ronces, etc., sous la parabole, vous vous en rappelez très bien. Et puis, il y a la terre qui est tombée, du grain qui est tombé dans la bonne terre, et qui donne 100 pour 1. Donc, de découvrir cette terre du centuple en nous, qui est justement cette terre de l'humilité, cette terre de l'accueil de nos faiblesses, de nos fragilités, pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.